Alessandro Moccia et Alix Verzier. Enregistré par Espace 2, ce concert sera diffusé ultérieurement.
Espace 2, Annick Chuin.
Durant la guerre froide, l'OTAN avait ses armées secrètes. Daniele Genzer, chercheur au Center for Security Studies à Zurich, après 4 ans d'enquête, nous livre ses conclusions et ses découvertes. Bienvenue dans les temps qui courent. En 1990, le premier ministre italien Giulio Andreotti reconnaissait publiquement l'existence de Gladio, une cellule clandestine anti-soviétique constituée au début de la guerre froide et sous la houlette de l'Alliance Atlantique, une cellule impliquée dans plusieurs attentats terroristes attribués alors aux communistes et à l'extrême gauche. Depuis ces révélations, d'autres personnalités politiques sont passées aux aveux, mais seules l'Italie, la Belgique et la Suisse ont diligenté des commissions d'enquête. C'est ainsi dans notre pays que l'armée secrète P26 a été officiellement reconnue à la suite de la fameuse affaire des fiches. La Suisse qui ne fait pas partie de l'OTAN, Daniele Genzer évoquera tout à l'heure les zones d'ombre qui recouvrent encore les activités de cette armée clandestine. L'OTAN qui combat désormais le terrorisme en Irak et en Afghanistan, la CIA, les gouvernements, inutile de préciser que l'enquête est malaisée et les bouches plutôt fermées. Il a fallu donc 4 ans aux chercheurs pour confirmer ou révéler que tous les pays d'Europe occidentale ont mis sur pied des armées secrètes appelées à agir en cas d'invasion. Des armées qui se sont parfois, souvent, retournées contre l'ennemi intérieur en perpétrant des actes terroristes mis sur le compte, comme en Italie, de l'extrême gauche. Les résultats de cette enquête sont publiés en anglais sous le titre « NATO's Secret Armies, Operation Gladio and Terrorism in Western Europe » paru aux éditions Franck Casse. Nicole Duparc a rencontré Daniele Genzer qui lui explique, en français merci, pourquoi, dès sa création en 1949, l'Alliance Atlantique décide d'adopter cette stratégie de la tension et de fédérer des armées secrètes dans une quinzaine d'États européens.
Bon, la stratégie de la tension, c'est de faire des attentats dans les plusieurs pays et de les attribuer aux communistes. Comme ça, on a produit 2 résultats. Premièrement, les personnes dans ces pays qui ne comprenaient pas ce que se passait avaient beaucoup de peur. C'est-à-dire, avec cette peur, on a pu très bien manipuler les personnes. C'est une situation qu'on a aujourd'hui dans cette guerre contre le terrorisme une autre fois. On a bien camouflé les traques dans cette stratégie de tension, parce que c'était les services secrets militaires qui étaient dans le centre de ces armées secrètes et ils étaient dans une position qu'ils pouvaient camoufler les traces.
Mais Daniele Genzer, à partir de quel moment, au fond, les pays membres de l'Alliance vont-ils être au courant de ce projet? Et est-ce qu'il y a eu, parmi les gouvernements occidentaux, des résistances?
C'est très difficile. Qui savait quoi, hein? C'est très difficile de trouver un peu les informations là-dessus. Parce que, premièrement, le CIA, donc c'est le service secret des Américains le plus connu, le CIA, et le MI6, c'est le service secret plus connu des Anglais, ils ont construit ces armées secrètes. Ils les ont coordonnées avec l'OTAN. Et ils ont fait ce travail avec les personnes dans l'Europe de l'Ouest qu'ils faisaient confiance. Et ils n'ont pas dit à tout le monde, on fait ici une armée secrète, êtes-vous d'accord? Il n'y avait pas de vote sur ça. Et bon, qui étaient les personnes qui ont fait confiance? C'était les personnes de la droite, aussi en quelques pays, par exemple en l'Allemagne, l'extrême droite, il y en avait des nazis là, dans ces réseaux. Et pourquoi? Parce qu'on a pensé, il faut quelqu'un qui a déjà convaincu au niveau de la population, on ne savait rien du tout. Justement, il y avait des personnes qui étaient dans ces cellules clandestines, mais eux-mêmes, ils ne pouvaient pas le dire, on ne pouvait pas en parler, qui faisaient partie de cette armée secrète. Et il y avait des personnes qui étaient vraiment convaincues qu'ici, il faut défendre les démocraties de l'Europe de l'Ouest en cas d'une invasion. Alors, il ne faut pas dire que toutes les personnes qui étaient dans ces réseaux étaient des terroristes, pas du tout. Il ne faut pas simplifier les choses. mais il faut voir que quelques structures ont fait des liens avec les terroristes pour justement planter des bombes, tuer des personnes, pour exiger la stratégie de l'attention.
Donc il y a de très lourdes accusations qui pèse en tout cas sur certaines de ces cellules, notamment donc en Italie, vous l'avez dit, en Allemagne, en Belgique, en France, en Grèce, en Suède également. Mais Daniel Egenser, quelles étaient très concrètement ces relations entre ces unités clandestines, donc dans chacun des pays, et les organes directeurs de l'OTAN? Quelle était la marge de manœuvre de ces unités clandestines? Je ne sais pas, il y avait par exemple un budget commun, une stratégie élaborée au niveau de l'OTAN et que chacun doit appliquer ensuite sur le terrain. Comment ça fonctionnait?
Non, ça fonctionnait plutôt national. C'est-à-dire, on a par exemple le service secret de la Norvège qui s'appelle NIS, Norwegian Intelligence Service. Eux aussi, ils ont été occupés pendant la Deuxième Guerre mondiale par les Allemands. Et ils ont dit, plus jamais, on veut être occupés sans être préparés. Et quand la guerre était finie, ils ont construit un réseau, il s'appelle Stay Behind, les armées secrètes. Le terme militaire, c'est Stay Behind parce qu'ils restent derrière les lignes quand il y a une invasion. Et donc, en Norvège, c'est une structure très nationale qui avait son budget qui était très national, mais les représentants de ce Stay Behind allaient à Bruxelles pour se rencontrer avec les autres membres de l'OTAN et parler de la guerre secrète. Là, les personnes qui étaient dans ce network, ils se sont aperçus à un moment que l'OTAN a utilisé des structures en Norvège pour espionner, pour regarder un peu qui en Norvège était très fortement pour la paix mondiale et contre les armes nucléaires et contre la guerre, et, bon, qui était dans ce mouvement-là. Et quand les Norvégais réalisaient ça, ils ont très très fortement protesté à l'OTAN. Ils ont dit « mais on n'aime pas ça du tout, que vous êtes ici dans notre pays, et que vous dites que vous voulez nous aider, vous utilisez la même structure pour faire l'espionnage sur ce ça ». Ils ont même dit qu'on ne va plus collaborer, on va retirer la collaboration, et il y a eu une lettre d'excuse de l'OTAN, et puis les Norvégiens, ils ont participé de nouveau à ce réseau. Et dans d'autres pays, et c'était tout à fait différent. C'était, par exemple, en France, on avait une structure qui aussi s'encontrait au niveau de l'OTAN dans ce Clandestine Planning Committee avec les représentants militaires, les Norvégiens, les Italiens, les personnes de la Turquie, de l'Allemagne. Mais eux, ils avaient une situation nationale tout à fait différente. Par exemple, la question si l'Algérie devrait être indépendante ou pas. Là, on avait une situation nationale pour la France qui aussi a eu des implications pour l'armée secrète.
Revenons au cas de l'Italie et à cette unité donc Gladio dont avait parlé Giulio Andreotti. Donc une unité qui va recruter des anciens fascistes, qui va commettre un certain nombre d'actes violents, parmi lesquels semble-t-il le fameux attentat de la gare de Bologne. Mais au fond, Daniel Egenser, en quoi l'OTAN aurait-elle eu avantage à un tel scénario qui visait donc à instaurer un gouvernement de droite ou d'extrême droite fort en Italie? En quoi l'OTAN avait-elle avantage à ce scénario?
Le problème pour l'OTAN, c'était que les communistes en Italie, le Partito Comunista Italiano, étaient très forts. C'est-à-dire, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était surtout les communistes qui ont lutté contre Mussolini, qui ont lutté contre le fascisme. Bon, ils avaient beaucoup de respect quand la Seconde Guerre mondiale se terminait. Et on a décidé donc, c'était l'administration du président Truman à Washington, de manipuler les élections en Italie en 1948. Et c'était le CIA, c'était sa première mission internationale, parce que le CIA a été créé une année avant, c'était de manipuler ces élections, ce qui marchait assez bien avec pas mal d'argent et des attaques personnelles, soit des attaques que ce représentant fait ça et ça, des choses qu'on posait qui n'étaient pas morales. Et donc, on a eu une situation de stabilisation pour un moment, mais on savait bien que tous les 4 ans, on avait les élections en Italie. Alors toujours, on avait ce problème d'empêcher les communistes de contrôler le pouvoir du pays. Et le gladio jouait un rôle qui a été expliqué très bien par Vincenzo Vinciguerra, c'est-à-dire un terroriste de l'extrême droite qui a parlé très très franchement de ce qu'il faisait, parce que c'était lui aussi qui faisait l'attentat de Paternò, donc un attentat terroriste qui a tué des personnes. Il explique lui-même qu'il a été protégé par l'État, que tout de suite le service secret militaire italien l'a mis dans un avion et l'avion l'a porté en Espagne, où Franco avait une dictature fasciste, où il était très bien protégé, parce qu'il y avait des autres Italiens qui ont cherché d'arrêter ces attentats. Mais c'est très difficile si le service secret décide de faire des attentats. C'est le plus difficile pour un État. Parce que l'État lui-même, il ne peut pas s'attaquer, il ne peut pas dire on est coupable. Et c'est une situation où, si on parle de checks and balances, c'est toujours, on dit, voilà, on a vu dans l'histoire que le pouvoir peut être corrompu, et bon, c'est humain, hein. Et pour ça, il faut des checks and balances. Alors, il faut une législative qui contrôle l'exécutif, mais aussi l'exécutif, si elle fait quelque chose, elle ne peut pas très bien se contrôler soi-même, si la législative, le Parlement, ne sait rien du tout de ces armées secrètes. Alors, c'est une situation où les checks and balances ne fonctionnaient pas, et quand Vincenzo Vinciguerra a dit que ces structures étaient liées à l'OTAN, alors là, on a tout de suite vu que l'État ne le protégeait plus et qu'il y avait un procès et qu'il finissait en prison.
Donc, vous dites que tous les pays d'Europe occidentale ont mis sur pied de telles cellules clandestines, mais jusqu'à présent, aucun pays n'a reconnu l'existence, au fond, de ces armées secrètes.
C'est pas correct. La Belgique aussi. Eux, ils ont aussi fait une enquête parlementaire. Alors, c'était la Belgique, c'était la Suisse et c'était l'Italie.
Donc, d'abord, un déni de la part des gouvernements. Non, oui. Ces cellules n'existent pas. Oui. Ensuite, petit à petit, on reconnaît l'existence de ces unités secrètes. Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui encore, ces unités existent?
C'est très difficile à dire, parce que si on ne fait pas le ménage, on ne sait pas ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de manipulations, mais les manipulations, ils sont, disons, sur un tout autre niveau. Okay. Mais moi, je pense toujours dans les contextes stratégiques. Et là, on a vu un grand changement. C'est clair que l'Union soviétique n'existe plus et que maintenant la Russie n'est pas, disons, un danger pour l'Europe de l'Ouest et qu'une occupation de l'Europe de l'Ouest n'est pas tellement probable. C'est-à-dire, je pense, le contexte suggère qu'il n'existe plus, mais il y avait même une lettre en Italie du gouvernement que cette armée secrète va être dissoute. Et en Suisse, on a fait le même avec la PE26 et en Belgique aussi, mais l'État, il est toujours dans une position de produire un nouveau organisme. Et ce qu'il nous faut pour la sécurité internationale, c'est justement plus de transparence et moins de manipulation.
Vous avez parlé de la Suisse. Effectivement, il y a eu donc une commission d'enquête du département militaire suite à l'affaire des fiches, qui a donc révélé l'existence d'une cellule clandestine anti-soviétique. Oui. Mais Daniel Egenzer, justement, la Suisse ne fait pas partie de l'OTAN, on le sait. Donc, est-ce qu'il y avait des liens indirects avec ces structures de l'OTAN dont vous avez parlé ?
En Suisse, on a découvert cette armée secrète qui s'appelait P26, indépendant de les investigations qui se sont produites en Italie. Et c'est un peu dans le même temps, c'était dans 1990 qu'en Suisse, on a présenté le rapport final sur la P26, c'était en novembre. On a eu une situation historique que le Parlement suisse a entendu, premièrement, d'une existence de l'armée secrète en Suisse. C'était pas la première fois, il faut ajouter que le Parlement suisse a été informé sur l'existence d'une armée secrète déjà dans 1980. On a été informé après l'affaire Bachmann. Mais ils ont été informés pour la première fois que ces réseaux existaient dans toute l'Europe de l'Ouest. Et le Parlement a donc décidé de demander au gouvernement de clarifier cette question si la P26 a été liée à l'OTAN, parce que justement c'est une question importante pour la Suisse à cause de la neutralité, parce qu'elle ne peut pas être liée avec l'OTAN, même pas dans des affaires secrètes. Et on a donné cette enquête à Juge Cornu, Pierre Cornu, que c'est une personne que j'ai rencontrée, une personne très respectable. Et lui aussi, il avait un peu les mêmes problèmes que j'avais moi comme chercheur. Parce que là, il a essayé de parler avec l'OTAN et l'OTAN n'a pas bien réagi. Il n'a pas parlé trop sur cette matière. Et il a essayé de parler avec le MI6, c'est le service secret de l'anglais, qui était très présent en Suisse sur ce sujet-là. Et le MI6, moi, j'ai fait les enquêtes à Londres. Il ne parle pas sur ce sujet, il n'y a aucune chance. Et non plus le CIA, donc les trois sources les plus importantes, soit l'OTAN, le CIA, le MI6, ils étaient fermés. Ce qu'il faisait après, c'est de parler avec les sénateurs en Italie qui faisaient des recherches, avec les sénateurs en Belgique qui faisaient des recherches aussi. Et eux, ils avaient des informations limitées peut-être aussi, eux. Et ils présentaient un rapport pour le gouvernement suisse à ce temps-là. C'était un rapport qui était peut-être 100 pages. Et le gouvernement l'a classifié, ce rapport. Il a produit une version plus courte pour le public de 10 pages, soit 10% du rapport original. Et dans ce rapport, le gouvernement suisse a dit qu'on est très heureux d'avoir trouvé que la P26 n'avait pas des liens avec l'OTAN. Donc la position du gouvernement jusqu'au présent, c'est que la P26 était complètement isolée de toutes les autres armées secrètes de l'OTAN.
Mais il reste encore des zones d'ombre.
Oui, tout à fait, parce que si on pense stratégiquement, il faut toujours penser stratégiquement dans ces affaires militaires, une occupation de l'Europe de l'Ouest. Là, il faudra coordonner les choses. Il n'y aurait pas eu une exception helvétique. Et dans ce cas-là, aussi les militaires suisses, ils savaient très bien ça. Mais en même temps, ils voulaient garder la neutralité. Alors, comment est-ce qu'ils ont fait ça? Ils ont tout d'abord eu besoin du support international. Et ce n'était pas le CIA en Suisse, c'était le MI6, c'était les Anglais, qu'on a eu des contacts très très bien, parce que les Anglais, eux aussi, ils ont fait des trainings militaires en Suisse, et les Suisses, ils sont, les membres de la P26, ils sont allés à l'Angleterre pour s'entraîner.
Donc c'était environ quoi, 400 hommes, c'est ça
Oui,
les ordres de grandeur, hein?
c'est ça. Et on a eu des trainings avec les Special Forces de l'Angleterre, SAS, Special Air Service. Et puis eux, ils savent toutes ces techniques de secret warfare et on s'est entraîné comment s'organiser s'il y a une occupation, que faire avec les personnes, comment recruter une guérilla, que faire avec le terrain et tout ça. Donc il y avait des liens très très étroits avec les Anglais. Et ça, c'est bien clair et le juge Cornu, il l'a confirmé, moi je l'ai confirmé dans mes recherches à Londres. Et donc là, on est très clair. Mais si on pense que le MI6 avec le CIA, eux, ils étaient, disons, le père et la mère de ce réseau, ils étaient aussi toujours présents dans l'OTAN, c'est un peu facile de dire qu'il n'y avait pas de lien avec l'OTAN. Peut-être qu'il n'y avait pas de lien direct, mais il y avait avec le MI6 un lien indirect et il faut en parler, je pense.
Daniel Eggenser, aujourd'hui, on l'a bien compris, la menace ne vient plus du monde communiste, mais du terrorisme, et en particulier du terrorisme islamique. Vous dites dans un entretien que certains gouvernements peuvent avoir un intérêt à attribuer des attentats à des musulmans, mais Daniel Eggenser, le terrorisme islamique a des racines aussi, bien sûr, historiques à l'intérieur des pays musulmans. C'est pas réductible à une création, une invention des services secrets américains.
Non, là, vous avez très bien compris que aussi, le terrorisme en Europe, ce n'est pas une création du service secret. Si je reviens à Vinci Guerra, le terroriste en Italie, lui, il était très convaincu qu'il devait faire ce qu'il voulait faire. C'est donc pas qu'il a été créé, c'est une personne qui a fait ses choix dans sa vie. Et le service secret, il a que manipulé une personne qui a fait ses choix. Le même avec les terroristes islamistes. Ils ont fait le choix de tuer des personnes, des innocentes. Mais le cadre manipulatif, c'est un autre niveau. Je dis la décision personnelle de tuer avec une bombe des innocentes, c'est toujours une décision personnelle. Et on ne peut pas manipuler une personne de faire ça. Il faut être convaincu qu'on fait une chose très, très intelligente ou correcte dans le cadre mondial ou stratégique, c'est pas, ou religieux. Mais la manipulation du terrorisme, c'est sur un autre terrain.
Mais vous parlez par exemple de l'amalgame réussi fait par le gouvernement Bush, à savoir convaincre l'opinion publique d'un lien entre le 11 septembre et l'Irak. En quoi l'OTAN et toute la structure de ces armées clandestines dont vous parlez, Daniel Eggenser, et que vous dénoncez, en quoi est-elle liée à ce qui est, on va dire, un travail de propagande du gouvernement américain, tout simplement, entre guillemets?
Oui, là, cette mensonge immense, je dois dire, de lier Saddam Hussein aux attentats du 11 septembre, ça a très choqué nous, les experts, un peu dans le domaine de la sécurité internationale, dans le domaine de l'histoire contemporaine. Parce que si on fait ça, on crée vraiment des problèmes immenses. Et ce que j'ai vu, c'est clairement une parallèle très directe avec les armées secrètes de l'OTAN. Parce que là, c'est un élément qu'on a bien étudié, c'est l'élément de false flag operation et stratégie de la tension. C'est-à-dire, on a un attentat en Italie, je prends un exemple historique parce que là, c'est plus clair. On prend cet attentat, par exemple l'attentat de Peteano de 1972, et on dit... Voilà, c'était les communistes ou c'était le terrorisme de la gauche, les Brigate Rosse, qui existaient aussi. Là, ce n'était pas une création, ça existait. C'était vraiment les étudiants qui pensaient qu'ils pouvaient changer le monde dans ce domaine avec la violence, un choix qui était catastrophique. Mais bon, ça existait. Et on pouvait comme ça faire croire à la population en Italie pendant 10 ans. Je répète, pendant 10 ans. C'est une période assez longue, que c'était la gauche. Alors maintenant, on n'a plus cette lutte contre le terrorisme, on parle d'une lutte contre l'islam. Mais là aussi, il faut se demander sur le niveau stratégique, qu'est-ce qui se passe vraiment? On a vu que dans l'histoire, là, ce n'était pas vraiment une lutte contre la gauche, mais c'était stratégiquement une formation de faire plus solide l'OTAN. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a comme situation aujourd'hui? Ce n'est pas que l'OTAN essaie de protéger sa solidité. Ce n'est plus le cas parce qu'il n'y a pas de parti communiste forte. Ce n'est pas le problème. Le problème aujourd'hui, si on regarde un peu la stratégie globale, c'est qu'il y a une lutte pour les ressources de la planète, soit l'huile, soit le gaz, soit des minéraux, soit beaucoup de trucs. Et on a une situation que les États-Unis sont dans une position tellement forte, car la Russie, maintenant, elle est faible. Elle est battue, elle a eu un collapse économique dans les années 90. Et le Chine, il n'est pas encore fort. C'est vrai qu'il devient plus fort, mais lentement. Et l'Inde non plus. Donc, les grands acteurs géostratégiques, au moment, ils sont faibles. Et les Américains, ils sont forts. Et C'est clair que comme géostratégiste, maintenant ça c'est pas une position morale, mais je dis comme géostratégiste, on va utiliser ce pouvoir qu'on a au moment et on va tout de suite occuper les ressources et on va essayer de contrôler tout ça. Mais on a une population et cette population, elle va pas être très contente si on dit on va tuer des autres personnes parce qu'il faut quand même faire des opérations qui sont nécessaires stratégiquement. Et pour ça, on utilise false flag operation. On l'a aussi fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Cette résistance populaire, il faut la manipuler pour faire les resource wars, comme nous les appelons, resource wars.
Donc, si je vous comprends bien, Daniel Egancer, face au terrorisme, nous ne nous posons pas les bonnes questions. Et en fait, d'après ce que je comprends de ce que vous dites, le terrorisme islamique servirait en fait d'épouvantail comme ça pour permettre une redistribution des cartes et des richesses.
Oui, tout à fait. Et c'est une situation historique. Presque tout, c'est une répétition de l'histoire. Si on regarde dans le 1979, par exemple, là, on a vu que le CIA, dans l'été, juin, juillet, ils ont créé des forces islamistes terroristes dans l'Afghanistan. Et pourquoi ça? Pour que l'Union soviétique avait peur d'avoir un gouvernement très radical, très islamiste en Afghanistan. Et puis en décembre, c'est-à-dire 6 mois plus tard, il y a eu cette invasion de l'Afghanistan pour confronter ce qui était une menace islamiste pour l'Union soviétique. Et on a eu, après 10 ans de guerre, qui a fait beaucoup plus faible l'Union soviétique. Et donc, l'utilisation du terrorisme sur un niveau géostratégique n'est pas compris du tout parce que les personnes, normalement, ne savent pas beaucoup de la géostratégie. Et c'est normal, bon, c'est pas quelque chose qu'on pense quand on se lève le matin.
Merci à notre invité Daniele Genzer, chercheur au Center for Security Studies à Zurich, qui nous livrait les résultats de 4 ans d'enquête publiés en anglais par les éditions Frank Cass sous le titre NATO Secret Armies, Operation Gladio and Terrorism in Western Europe. Cet entretien vous était proposé par Nicole Duparc avec la collaboration de Jérôme Nussbaum, Karine Deladoé et Annick Chuin.
Notre adresse internet, espace2.ch.
Et un numéro de téléphone pour commander les cassettes de nos émissions, 026 323 24 24. À demain, et pourtant elle tourne cette terre qui ne cesse d'émerveiller les scientifiques. Les temps qui courent vous sont proposés tous les jours de la semaine à 8h30 et en nouvelle diffusion, vous le savez, à 19h30. Merci de rester avec nous. Dans un instant, musique en mémoire.
Charles-Ferdinand Ramu entretenait un rapport particulier avec la radio, comme en témoigne le CD que vient d'éditer la boutique RSR. Un disque qui regroupe des interviews, des lectures par Ramu lui-même, et bien sûr des passages musicaux de l'histoire du soldat et des éclairages divers sur l'œuvre de l'écrivain vaudois.
Une grandeur s'exprime devant moi, si seulement je pouvais l'exprimer.
Charles-Ferdinand Ramu, une figure, une voix, un CD à commander à la boutique RSR au 0848 848 330 ou sur le site rsr.ch.
Raccroche-moi un peu de soi.
1, 2, 3, 4, 5.
Espace 2, bientôt 9h. Jean-Luc Rider vous attend après les informations.